Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Martine Monti et Renaud Broukis, avec la réalisation Nancy Zottier. Ce soir, nous vous entraînons à la rencontre des migrants qui arrivent à nos portes. Certains textes récents, tels que la loi Asile et Immigration de 2024 ou la circulaire du ministère de l'Intérieur du 23 janvier 2025, marquent un cap supplémentaire en matière d'atteinte grave aux droits des personnes étrangères et consacrent la primauté de l'arbitraire de l'administration sur l'accueil humanitaire. Ces textes servent une politique migratoire dont la seule boussole semble être d'assimiler certaines personnes étrangères à des indésirables. Le tout dans un contexte politique et médiatique où règne la suspicion à l'égard des exilés, la criminalisation des étrangers et où s'impose une restriction sans précédent des possibilités d'accueil et de régularisation pour les personnes qui arrivent sur notre territoire. Ces lois ne ciblent pas des statistiques, mais des personnes réelles, bien vivantes. Pourtant, l'État français persiste à les traiter comme des indésirables, au mépris des conventions internationales et des valeurs fondamentales que sont la solidarité, l'accueil et le respect des droits humains. Aujourd'hui, nous souhaitons porter votre attention sur la zone géographique des Alpes, espace de passage, de flux de population depuis des siècles, et particulièrement sur la région de Briançon. Le col du Mont-Genèvre est devenu l'un des principaux points de passage de personnes entre l'Italie et la France. Pour le préfet des Hautes-Alpes, l'objectif est d'étanchéifier la frontière. Et ses priorités sont surveiller, interpeller et reconduire en Italie les migrants sans papier. En 2025, les autorités ont interpellé jusqu'à 250 personnes par semaine alors qu'elles tentaient de franchir la frontière entre l'Italie et la France. Ceux qui ont tout quitté et qui ont déjà frôlé la mort à de multiples reprises depuis le début de leur périple sont amenés à prendre des risques supplémentaires pour franchir la frontière, souvent de nuit, sans être pris et refoulés. Ces risques sont liés au milieu extrême de la montagne, le froid, la neige, les chutes. Entre 2018 et 2023, au moins 16 personnes sont mortes ou portées disparues et des centaines d'autres ont été blessées en montagne dans le Briançonnais. Face à cela, des personnes souvent bénévoles s'engagent de manière individuelle ou dans les associations ou structures d'aide aux migrants. Ces citoyens veulent affirmer leur désaccord face à ces politiques migratoires injustes et dangereuses en venant en soutien aux exilés à leurs portes par des gestes d'assistance solidaire, accueil, soins, hébergement, écoute, et en menant des actions de plaidoyer au-delà du territoire local. Aussi, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Isabelle Laure, de Médecins du Monde, Brune Béal, de Tous Migrants, et Émile Rabreau, des Refuges Solidaires, afin de partager avec vous leur témoignage de la situation sur le terrain et de leur engagement. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale.
Respeta, un animal de la tierra, la gente lo recuerda. Contiene y protege el orden de la comunidad. Porque los pendejos se ven. Hasta acá. Hasta allá. Hasta allá.
Bonsoir Brune, Isabelle et Émile. Donc avant de rentrer dans le récit de ce qui se passe aujourd'hui dans le Briançonnais et de vos actions, j'aimerais en quelques mots que chacun d'entre vous vous, vous présentiez, savoir qui vous êtes, quel est l'historique, quels sont les objectifs des associations dans lesquelles vous êtes impliqués Et à titre personnel, quelles sont vos motivations ? Brune.
Bonsoir, merci de nous avoir invités. Je m'appelle Brune Béal, je suis salariée de l'association récemment renommée Toutes et tous migrants. Nous sommes un mouvement citoyen basé à Briançon, mais nos actions de sensibilisation et de plaidoyer ont parfois un écho au-delà du territoire haut-alpin. Nous sommes constitués à partir de 2015 en réaction à la crise de l'accueil qui sévissait et qui sévit encore dans l'Union européenne. Et puis l'hiver qui a suivi, donc l'hiver 2016-2017, a vu le nombre de personnes exilées tenter de franchir la frontière franco-italienne haute, donc en contraste avec la frontière franco-italienne basse au niveau de la vallée de la Roya et de Menton. Donc a vu le nombre de personnes légèrement et progressivement augmenter, mais surtout les personnes de l'association ont vu de plus en plus de personnes se mettre en danger en montagne à cause des politiques migratoires et du début de ce qu'on appellera ensuite la militarisation de cet espace frontière. Voilà, donc les objectifs de notre association, c'est vraiment la défense des droits des personnes en situation d'exil, mais en fait de toutes et tous plus globalement, avec une revendication forte qui est celle de la liberté de circulation pour toutes et tous et l'égalité en droit. Et donc nous portons des actions qu'on nommera de plaidoyer, de sensibilisation, mais aussi du contentieux et avant tout aussi une mobilisation d'un territoire qu'on souhaite être au maximum accueillant.
Et à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans ce genre d'action ?
Je ne saurais pas trop remonter le fil de mon engagement militant et professionnel, mais aujourd'hui les deux s'imbriquent un petit peu. Je pense que c'est aussi comme pas mal de personnes autour de cette table et plus globalement comme pas mal de personnes en France et ailleurs, une volonté qu'on continue d'être au maximum un territoire, enfin une société pardon, solidaire et accueillante, mais pas que vis-à-vis des personnes exilées, mais sachant que ces personnes sont particulièrement discriminées, mais comme d'autres, donc voilà, avec quand même une animation d'avoir une société un peu plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Isabelle, pour Médecins du Monde.
Bonsoir, donc moi je suis Isabelle Laure, la coordinatrice du programme de l'association Médecins du Monde, donc basée à Briançon, mon poste est basé à Briançon. L'association Médecins du Monde, du coup, est une association nationale, internationale, qui existe depuis 1980, et qui se bat du coup pour un accès pour toutes et tous à la santé, autant en France qu'à l'international. On a, on va dire, plusieurs combats au sein de Médecins du Monde. On a à la fois des thématiques autour de migration, exil, droit et santé, autour de la défense du système de santé, notamment aussi en France, autour des droits à la santé sexuelle et reproductive, autour des usages de drogue, la réduction des risques autour des usages de drogue, des thématiques autour de la santé et de l'environnement. Du coup, on est là, on va dire, le gros combat de Médecins du Monde, ça va être soigner, témoigner et plaider. Donc, on vient, du coup, en appui à des populations pour un accès aux soins. On vient témoigner et visibiliser les entraves à l'accès aux soins. Et du coup, on plaide, en tout cas, on interpelle les autorités publiques pour dénoncer les violations de droits et le non-accès effectif et de qualité aux soins. Et dans une vocation aussi à disparaître, parce qu'on n'a pas vocation à remplacer le droit commun.
D'accord, comme beaucoup d'associations, mais qui ne sont pas prêtes de disparaître. Et vous, Émile, pour les Refuges Solidaires ?
Alors bonsoir, merci pour l'invitation. Refuges Solidaires, c'est une association qui a été créée en 2017 pour justement répondre au manquement délibéré de l'État en matière d'accueil à l'échelle du territoire briançonnais, au sens où l'État refuse de prendre ses responsabilités en matière d'accueil, alors que pourtant il est normalement responsable d'accueillir toute personne en situation de vulnérabilité, en situation de détresse sur le territoire français. À Briançon, il n'y a que 7 places au 115 en moyenne, ce qui ne correspond pas du tout aux besoins d'accueil sur le territoire. Refuge Solidaire, c'est une association qui intervient dans le bâtiment des terrasses solidaires. Le bâtiment des terrasses solidaires, c'est ce bâtiment qui nous permet d'accueillir les personnes exilées qui traversent la frontière depuis le col de Montgenèvre, Au sein de ce bâtiment, Refuge accueille, occupe pardon, plus de 90% de l'espace. Et cet espace nous permet d'héberger toutes ces personnes qui nous sollicitent, faute de solutions publiques à l'échelle du territoire, pour répondre à leurs besoins. Notre objectif en tant qu'association, c'est de défendre un accueil digne et inconditionnel à l'échelle du territoire, et de pouvoir justement héberger les personnes qui nous sollicitent 3 jours, 3 nuits pour leur permettre d'avoir un espace de repos, un espace de répit avant qu'elles ne poursuivent leur parcours d'exil comme Briançon est la première étape pour beaucoup de ces personnes-là en France.
Effectivement, donc elles arrivent d'abord dans le Briançonnais, puis elles repartiront ensuite, continueront leur route vers d'autres cieux.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui, à titre personnel, vous a poussé à vous engager dans cette action ?
Alors, à titre personnel, moi, ce qui m'a poussé à m'engager dans cette action, donc moi, il faut savoir que je suis administrateur élu bénévole de l'association. Ce qui me motive, moi, tout simplement, c'est de mettre de l'énergie dans un territoire, à Briançon, où il y a un noyau de solidarité assez fort, qui travaillent de manière interorganisationnelle et complémentaire. Et c'est un espace où on peut faire vivre et renforcer un contre-pouvoir et une belle alternative face à l'intensification des politiques réactionnaires et racistes à l'échelle du territoire français.
Merci pour ces entrées en matière et ces présentations. Venons-en maintenant à la situation aux frontières. Dans le Briançonnais, les points de passage principaux pour rentrer en France sont le col du Mont-Genèvre, le col de l'Échelle au-dessus de Bardonnèche et les lignes de crête au-dessus de la plaine du Bourget, juste au-dessus du village de Servières. Comment est-ce que la situation a évolué depuis 2015, Brune ? En termes de passage, de type de personnes qui viennent d'origine ?
Alors, mon historique ne se veut pas exhaustif pour la simple et bonne raison que je n'étais pas là à cette époque, donc à partir de 2016 où on commence à rencontrer des personnes en montagne. Mais je vais quand même donner des éléments contextuels pour permettre aux auditeurs et auditrices de bien comprendre. Donc à l'hiver 2016-2017, en fait, c'est des habitants et habitantes de la vallée de la Clarée et aussi des habitants et habitantes côté italien qui alertent d'autres habitants de Briançon sur la présence de personnes en situation de grande vulnérabilité en montagne qui tentent de franchir la frontière. Et à partir de là, en fait, il y a tout un réseau solidaire qui se crée, d'abord bien loin de penser que ça allait ensuite se constituer en collectif, en association, organisée, etc. Et donc la première des solidarités, elle émane en fait des personnes qui vivaient ici et qui n'avaient rien demandé à personne, mais qui ont eu cet élan-là assez spontané d'ouvrir leurs portes, d'aider les personnes et qui se prétendaient ni politisées, ni forcément militantes, mais qui l'ont fait parce que ça se passait en bas de chez elles. Et donc, ainsi de suite, s'organisent plusieurs activités avec plusieurs axes aussi. Très vite, l'axe du plaidoyer, en fait, pour faire connaître aussi ce qui se passe, pour sensibiliser un peu plus largement que la vallée de la Clarée. Et puis surtout des activités de réduction des risques en montagne, puisque c'était un des premiers besoins qui a été identifié. En même temps que le besoin d'hébergement d'urgence, celui en fait de venir en aide à des personnes qui, pour certaines, peut-être connaissent très bien la montagne et d'autres pas du tout, qui n'ont peut-être pas d'équipement de montagne, qui n'ont peut-être pas connaissance vraiment de l'itinéraire et qui, surtout, traversent dans la peur d'être refoulées, dans la peur d'être violentées et qui s'exposent donc à des dangers qu'on sait aujourd'hui mortels. Voilà, je voulais quand même souligner le fait que l'hébergement d'urgence, de même que la réduction des risques en montagne, au début ça s'est fait de façon très spontanée, avec aussi un hébergement solidaire chez les habitants et habitantes.
C'est quelque chose qui continue à se faire
de façon un tout petit peu plus résiduelle, parce qu'en fait on s'est rendu compte aussi que c'est pas une mince affaire, et je laisserai Émile en parler ensuite, c'est pas une mince affaire que de tenter d'offrir un hébergement inconditionnel, digne, et donc en fait ça a aussi nécessité de développer des compétences, des besoins aussi matériels, etc., qui se sont vite imposés, et une fatigue aussi des militants et militantes qui avaient besoin d'un relais aussi parfois qu'on trouve dans les structures, pas forcément associatives, mais notamment. Mais je laisserai Émile en parler. Et donc, au fur et à mesure, donc, l'association de toutes et tous migrants se constitue avec vraiment cet axe-là de plaidoyer et pour en arriver à un schéma qu'on souhaite aujourd'hui encore être tout à fait complémentaire, en tout cas on l'espère. Donc, c'est-à-dire qu'on se répartit les tâches, on essaye de ne pas faire les mêmes choses et surtout on essaye de faire les choses ensemble en essayant de répondre aux différents strates qu'on identifie dans les besoins, donc à la fois sur effectivement l'axe du droit, la défense des droits fondamentaux, des actions contentieuses, du plaidoyer, mais aussi et surtout l'accès à l'hébergement d'urgence, les activités de réduction des risques en montagne qui, ça, sont menées par le collectif de réduction des risques en montagne, qu'on appelait avant le collectif Maraude, dans lequel Médecins du Monde et Tous Migrants, nous agissons auprès de tout un tas de solidaires qui agissent aussi à titre individuel. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, à la frontière, donc c'est principalement au niveau du col de Montgenèvre que les personnes tentent, je dis bien tentent, de passer. Col de l'échelle, plus vraiment, en vérité, aussi parce que la route est fermée en hiver, ce qui complique. Tu compliques le trajet. Au niveau de Servières, c'est tout à fait résiduel aussi. Ce qu'on remarque, c'est quand même les personnes se mettent largement plus en danger au niveau de Servières, puisqu'elles passent par des cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais c'est arrivé encore il y a quelques semaines. Et voilà, si vous avez besoin d'exemples, nous avons récemment...
On pourra y revenir.
D'accord.
Avant de rentrer justement dans le concret des actions, Isabelle, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement par rapport à ça, ces personnes qui arrivent, le profil de ces personnes, les difficultés dans lesquelles elles se trouvent?
Oui, tout à fait. Peut-être pour préciser un petit peu l'historique aussi par rapport à l'arrivée de Médecins du Monde, nous on a répondu à un appel des associations locales qui ont fait un appel national aux ONG nationales et internationales en 2017. Et on a commencé d'un premier temps plutôt en soutien à Refuge Solidaire pour permettre un premier accès aux soins aux personnes qui venaient d'arriver. Donc en effet, si Médecins du Monde a répondu présent à cet appel des associations, d'une, c'est parce qu'il y avait une énorme solidarité qui se mettait en place sur le territoire et c'était intéressant de pouvoir soutenir cette dynamique-là, à la fois de mobilisation citoyenne, de solidarité et de plaidoyer aussi, et parce qu'il y avait des gros enjeux de santé, du coup, dans cette traversée de la frontière. Donc, il faut bien s'imaginer que les personnes, en fait, arrivent... Alors, les parcours ont été très différents. Il y a des parcours qui a des personnes qui arrivent par la route des Balkans, des personnes qui arrivent depuis la Libye, qui traversent la Méditerranée et qui arrivent vers l'Italie, qui sont accueillies à Oulx, donc juste en bas du côté italien, qui prennent le bus ou qui marchent jusqu'à Clavière et ensuite qui traversent du coup la montagne, donc on se retrouve à 1800 mètres d'altitude, donc des gros enjeux au niveau notamment de la saison hivernale où des personnes peuvent marcher des heures du coup avec de la neige et des températures extrêmes qui peuvent aller en ressenti jusqu'à moins 20 degrés, donc voilà, il faut vraiment se rendre compte de, c'est à peu près 5 heures de marche normalement pour une personne en bonne santé et sans neige. Donc,
surtout lorsqu'elle traverse la nuit.
Oui, du coup, elle traverse principalement la nuit. Alors, ce sur quoi on insiste aussi, c'est qu'on est vraiment dans un cadre de militarisation de la frontière et de contrôle aux frontières intérieures. Donc, il n'y aurait pas de contrôle aux frontières en toute illégalité. Ça fait 10 ans qu'il y a des contrôles aux frontières intérieures. Les personnes passeraient tout simplement par la route. Donc là, comme il y a des contrôles systématiques et des refoulements quasi systématiques, les personnes, du coup, passent par la montagne et par des chemins de plus en plus périlleux pour échapper au contrôle des forces de l'ordre. Et donc, nous, ce qu'on dénonce principalement sur les questions de soins, en tout cas, c'est que vraiment la militarisation de la frontière qui impacte et qui implique des conséquences pour la santé physique et psychique des personnes. Oui.
Alors, d'un point de vue pratique, justement, comment vous fonctionnez entre Médecins du Monde, Tous Migrants, justement pour essayer d'accueillir ou de sauvegarder ces personnes qui traversent?
Oui.
Ça se passe comment, je dirais, les maraudes, finalement?
Oui, du coup, donc c'était l'objectif. Donc Brune en parlait un petit peu. C'est le collectif donc réduction des risques en montagne. On parle vraiment donc de réduction des risques en montagne. L'idée, en fait, c'est alors ça, comme a dit Brune, ça a été très spontané au départ. Donc c'était aussi sous ce slogan, il n'y aura pas de mort dans nos montagnes, que des citoyens, des montagnards se sont mobilisés pour porter assistance aux personnes qui traversaient. Et petit à petit, on va dire, ça s'est un peu plus organisé, un petit peu plus structuré. Et on a mis en place en 2019 ce qu'on a appelé l'UMA, UMMA, qui est l'unité mobile de mise à l'abri. Qui fait partie du collectif Réduction des risques en montagne. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un véhicule, donc Médecins du Monde, qui est estampillé Médecins du Monde, avec la vocation d'être, enfin, en tout cas, connu, reconnu et visible pour pouvoir dénoncer ce qui se passe. Et avec un binôme Tous Migrants, Médecins du Monde, donc un maraudeur Tous Migrants qui connaît très bien la montagne et qui permet voilà, de comprendre un petit peu l'environnement montagnard. Et un soignant, soignante, Médecins du Monde, infirmier, infirmière, médecin. Un binôme qui monte en montagne pour essayer essayer de voir s'il y a des besoins pour porter assistance aux personnes. Et donc, quand on rencontre des personnes, c'est une première évaluation de l'état de santé qui est faite assez rapide, parce qu'en montagne, c'est assez compliqué de pouvoir faire une véritable évaluation de l'état de santé de qualité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir soit appeler les secours s'il y a un besoin urgent, soit d'orienter vers l'hôpital, soit on revendique vraiment la nécessité d'une mise à l'abri à Refuge Solidaire assez rapidement, pour pouvoir évaluer l'état de santé des personnes plus précisément, pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir manger. Et notamment, c'est les risques, en tout cas actuellement, pour pouvoir contrer les hypothermies et prévenir les risques de gelure, qui est le gros risque en saison hivernale.
Une chose importante, vous ne rencontrez ces gens qu'une fois qu'ils sont passés la frontière.
Oui, alors du coup, pour le coup, on est vraiment côté français. On ne peut pas passer côté italien, c'est évident. Donc, on est vraiment sur une action côté français. Donc, les personnes traversent par différents chemins et nous, on essaye de voir si des personnes ont besoin d'assistance. Et en les mettant vraiment aussi au cœur, c'est important pour nous, je pense, de mettre vraiment au cœur de l'action les personnes et leur autonomie autour de tout ça. Donc, il y a un besoin de soins. Parfois, des personnes aussi sont en bonne santé et arrivent seules au refuge.
D'accord. Donc, vous allez porter assistance aux personnes qui arrivent. Mais vous avez également un rôle d'observation à la frontière de ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez dire plus précisément ce que vous faites dans ce cadre-là ?
Oui, en fait, l'observation, elle se fait à deux titres. Il y a déjà avoir un regard attentif et aiguisé pour chacun et chacune des solidaires qui se trouvent en montagne, que ce soit pendant les maraudes ou à un autre moment. Ce qu'on n'a pas précisé quand même, et pour que les auditeurs et auditrices se rendent compte, tous les soirs, pendant la période hivernale, qui est un peu plus longue à Briançon qu'ailleurs en France, donc à peu près de novembre à mai, c'est quasiment tous les soirs qu'il y a des personnes qui bénévolement montent en montagne de 20h à des fois minuit, 1h, 3h, 5h, 6h du matin, en fonction des difficultés rencontrées, et qu'ils le font bénévolement dans des conditions parfois dantesques, où il fait très froid en montagne, et où on essaye au maximum de ne pas imposer notre présence. Et donc, rappeler aussi que c'est principalement des solidaires qui ne sont pas forcément de toutes et tous migrants ni de médecins du monde, hein, qui viennent de toute la France pour aider. Et donc, il y a effectivement cet effort-là qu'on essaye de mettre dans l'observation et plus généralement, en fait, dans la documentation des pratiques policières et des atteintes aux droits à la frontière. Ça peut se faire via des missions d'observation qu'on organise régulièrement avec Médecins du Monde, Tous Migrants, mais aussi avec des associations nationales avec lesquelles nous travaillons sur ce sujet-là. Donc, en fait, c'est se poster devant le poste de police de Montgenèvre et faire des sessions sur 24-48 heures d'observation avec un roulement de bénévoles et avec une méthodologie rigoureuse. Méthodologie rigoureuse qu'on investit, en fait, dans toutes nos activités de documentation, que ce soit dans le recueil de témoignages, dans les observations, dans l'analyse juridique et, en fait, dans tout ce qu'on appellera un peu analyse des données dites de terrain. Et donc c'est un peu ce qui fait aussi la crédibilité de notre message, qui est aujourd'hui reconnu par bon nombre d'institutions, notamment des autorités administratives indépendantes, qui non seulement reconnaissent la crédibilité de notre parole, mais surtout nous soutiennent aussi dans les constats qu'on tire de par nos modestes analyses.
Et donc vous avez également une action de plaidoyer, alors qui dépasse certainement le Briançonnais, certainement là, à ce niveau-là.
Alors, pour le plaidoyer, je parlerai qu'au nom de Tous Migrants, parce qu'effectivement, on ne s'inscrit quand même pas du tout dans la même échelle que celle de Médecins du Monde. Pour Tous Migrants, nous, on entend vraiment le plaidoyer au sens large du terme, c'est-à-dire que à entendre le message qu'on portera, tant dans les cours de justice que dans les médias, que auprès, avant tout, de la population locale, puisque nous, c'est notre priorité aussi de sensibiliser le territoire briançonnais. Mais donc, c'est entendre au sens large quoi l'action de plaidoyer qu'on mène. Et donc, c'est aussi, mais d'une façon un peu plus limitée, du plaidoyer institutionnel. Ça peut être auprès des élus parlementaires, sénatrices, mais aussi auprès des autorités administratives indépendantes qui se voient menacées de ne plus exister dans quelques temps de par aussi l'extrême droitisation des gouvernements successifs, mais qui quand même aujourd'hui existent et sur lesquels nous essayons de compter pour leur faire remonter les constats de terrain. Donc j'entends par là la Défenseure des droits, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, ce genre d'institutions qui continuent de lutter à leur façon.
Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, non, mais on se rejoint complètement avec Tous Migrants sur les questions de plaidoyer. En effet, on est sur à la fois sur de la mobilisation d'un territoire, de la sensibilisation des personnes, de la rencontre avec les autorités publiques pour remonter nos constats. Nous, sur ce qu'on documente principalement, comme on vous disait, c'est à la fois donc ces traversées et les conséquences de ces traversées sur la santé physique et psychique des personnes. Donc c'est à la fois en montagne, enfin ce qui se passe en montagne par la traversée de la montagne et par les, on va dire, les contacts aussi avec les forces de l'ordre qui ont des pratiques qui mettent en danger les personnes en montagne. On va documenter principalement aussi dans les locaux de privation de liberté quel est l'accès aux soins aussi et comment sont pris en compte les vulnérabilités des personnes dans ces locaux de privation de liberté. Et voilà, comme dit Brune, on les remonte régulièrement aux autorités administratives indépendantes pour pouvoir visibiliser et maintenir l'information sur le contexte qui peut évoluer assez rapidement et se dégrader aussi assez rapidement.
Donc, parmi les actions que vous menez, il y a le travail donc de sensibilisation, mais également un travail de mémoire. Pour ne jamais rester indifférent, je dirais, aux épreuves et à la souffrance que vivent les migrants, dont certains meurent au cours de leur route. Et j'aimerais qu'on évoque rapidement, mais quand même en quelques mots, le cas de l'histoire de Blessing Matthew, une migrante qui a trouvé la mort au-dessous du col du Mont-Genèvre en 2018. Brune, vous pouvez nous en dire deux mots?
L'affaire de Blessing Matthew, elle tient une place importante dans l'histoire politique, juridique et de tous migrants. Donc en fait, c'est la première personne dont on a connaissance qui décède pendant son parcours d'exil entre Mont-Genèvre et Briançon. Il y en a peut-être eu d'autres, on ne le saura peut-être pas. En tout cas, nous, à l'échelle de notre mobilisation, c'est la première personne. Et donc, c'était une très jeune femme qui est décédée. Et on a lancé là-dessus ce qu'on va appeler une contre-enquête citoyenne, justement dans un devoir de mémoire et de faire vérité et justice. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, on a un peu un double enjeu vis-à-vis de la question des personnes disparues et décédées aux frontières. On honore aussi les prochains jours avec l'action de la commémoration à l'échelle internationale. Mais en fait, ce double objectif, c'est de réhumaniser chacune des histoires. Donc en fait, c'est mettre autant d'énergie et de soins qu'on aurait mis dans le décès de n'importe quelle autre personne, qu'elle soit française ou non. Donc c'est lui donner un nom, une histoire, reprendre contact avec les proches au maximum, organiser des obsèques dignes si on peut. Et en même temps, de replacer ça dans quelque chose d'intrinsèquement politique. C'est-à-dire que c'est pas les montagnes qui tuent, au même titre que c'est pas la mer Méditerranée qui tue. C'est les politiques migratoires, c'est la militarisation, c'est les violences, c'est le racisme, c'est les politiques néocoloniales, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas la montagne qui tue. Et donc, en fait, repolitiser ces décès-là, c'est aussi, d'une certaine manière, faire mémoire et justice pour ces personnes, en n'oubliant pas qu'il n'y aura... Mais comme on le dit un peu aussi pour les violences policières, il n'y aura ni oubli ni pardon. La question, c'est pas ça. La question, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant et comment est-ce qu'on peut le transformer en un combat qui puisse, on l'espère, un jour mener à la fin de ces décès qu'on aurait pu éviter, au même titre que ces amputations, que ces blessures, que ces traumatismes qu'on aurait pu tous éviter.
Mais merci bien pour ce témoignage. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale et nous reprenons ensuite l'émission.
Baby, if you leave, I hope you'll find something else. What a fine young man, that's what your parents said when they met me. Cause next year I turn Saint Laurent into Saint Laurent. Sometimes I ain't a saint, but I'm a saint at heart. I got good intentions coming from my mama. So you know I ain't never about the drama, yeah.
Hey, Maghreb, got me feeling so wavy. Knowing that freaking sunset's on my mind lately. I don't stress, so please don't stress me, baby. I just had graduation in the Nissan, but you gon' see me in a Bentley.
Baby, slide, vas-y, rentre dans ma Nissan. 2006, moi je vais te montrer le East Side. 2007, on a quitté le Seaside. Je vois du Sauvignon blanc, fuck un Titan. Fais pas semblant, tu prends ça trop sérieux. Je prends mon temps, toi tu prends ça trop sérieux.
Mes chapeaux d'Alain, baby, if you leave, I'll be fine, something healthy. Got better when you met me, and that's just the way that it is when they leave.
Nous poursuivons le thème de notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir à l'accueil des migrants qui arrivent à la frontière dans le Briançonnais et aux associations qui leur viennent en aide, avec Brune Béal de Tous et Toutes Migrants, Émile Rabreau des Refuges Solidaires et Isabelle Laure de Médecins du Monde. Donc dans un premier temps, nous avons écouté des témoignages par rapport à ces personnes qui arrivent. Et nous avons évoqué les actions finalement que mènent Tous Migrants et Médecins du Monde. Et une fois que ces personnes ont traversé la frontière sans avoir été refoulées par la police aux frontières. Ils sont accueillis à Briançon dans les refuges solidaires. Donc, pour vous, militants des refuges solidaires et de Médecins du Monde, quels sont effectivement vos objectifs et qu'est-ce que vous proposez à ces personnes qui arrivaient ? Émile ?
Alors tout d'abord, l'objectif principal de Refuge Solidaire, c'est de faire vivre un lieu d'hébergement d'urgence associatif. Dans la mesure où l'État ne prend pas ses responsabilités en matière d'accueil sur le territoire, l'objectif c'est de pouvoir, à notre échelle, défendre et faire valoir et appliquer une dignité d'accueil et une inconditionnalité aux personnes qui nous sollicitent pour pouvoir passer quelques jours et se reposer au sein du bâtiment des Terres Solidaires. On a une définition un peu claire de ce que signifie pour nous la dignité. C'est de plus en plus un mot qui peut être utilisé à différents égards, un mot valise. Et pour nous, c'est important que les gens comprennent clairement ce que ça veut dire la dignité au sein de Refuge Solidaire. Ça passe par 10 fondamentaux qu'on a identifiés. Le premier qui est la mise à l'abri 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc ça permet de pouvoir accueillir toute personne qui nous sollicite, quels que soient les horaires de la journée ou de la nuit. Ce qui fait sens aussi pour nous, c'est de proposer une alimentation, 3 repas chauds par jour pour les personnes exilées. L'accès à l'hygiène aussi, que ce soit par l'accès à des produits d'hygiène, mais aussi l'accès à des lits propres, à des douches, à des toilettes, à des installations aussi privatives pour des femmes et les familles. Ça passe aussi par l'accès aux soins de Médecins du Monde et de la PASS, et du coup je peux te laisser détailler un peu plus précisément ce point-là.
Oui, Isabelle.
Du coup, au sein de Refuge Solidaire, on a une permanence médicale donc qu'on mène en partenariat avec l'hôpital de Briançon et notamment la PASS, qui est la permanence d'accès aux soins de santé, qui est présente tous les matins du coup à Refuge Solidaire. On tient à le souligner parce que c'est un bel engagement en tout cas de l'hôpital sur Refuge Solidaire. Nous, Médecins du Monde, on intervient principalement avec des bénévoles aussi. On est 2 salariés sur la mission, mais c'est principalement des bénévoles, infirmiers, infirmières, médecins, psychologues qui interviennent au sein de la cellule médicale. Du coup, on propose un premier accès aux soins, donc à la fois c'est du soin, on va dire, somatique, physique, avec des orientations parfois à l'hôpital pour aller un petit peu plus loin sur certaines problématiques de santé. Et c'est aussi avant tout vraiment un premier espace d'écoute. Donc comme disait Émile, les personnes restent environ 3 jours avant de continuer la route, mais en 3 jours on peut faire aussi beaucoup, beaucoup de choses et ça reste un espace de première écoute, de réhumanisation aussi, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour parler aussi des problématiques de santé, pour la suite du parcours aussi. Et on est principalement, comme on est sur 3 jours, on est principalement sur de l'orientation aussi. On va orienter les personnes sur la suite de leur parcours, sur les villes de destination.
Et au Refuge Solidaire, quel est le profil des personnes que vous voyez arriver ? Ce sont surtout des hommes, jeunes, vieux, des femmes, des familles, éventuellement des mineurs isolés ?
Parce que du coup, ce quatrième fondamental que vient de décrire Isabelle, s'ensuit aussi le cinquième, qui est un accompagnement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, au-delà de la permanence santé, il y a aussi un pôle accueil au sein de l'association qui permet de donner accès à l'information aux personnes exilées. Et il y a aussi la CIMAD qui intervient au sein du bâtiment. Et en fait, cette interassociation médico-sociale, elle permet de pouvoir accompagner le mieux possible sur la question de la santé, sur la question juridique et aussi administrative, les personnes qui sont accueillies au sein du bâtiment. On a aussi l'abri janvier à Refuge Solidaire. L'abri janvier, c'est la raison pour laquelle Refuge Solidaire est au pluriel. C'est un petit refuge qui est situé à Guillestre, à une quarantaine de minutes.
À Guillestre, aux portes du Kera.
Exactement, c'est ça. Et qui est en fait un petit refuge qui, en gros, permet d'accueillir sur un moyen long terme des personnes accueillies à Refuge Solidaire à Briançon qui auraient été identifiées par le pôle médico-social comme étant particulièrement vulnérables et donc nécessitant un accompagnement un peu plus poussé si ces personnes-là le souhaitent.
Ce sont des personnes qui arrivent d'abord à Briançon et que ensuite vous envoyez à Guillestre ?
C'est ça, c'est ça. On a aussi un point qui est aussi fondamental pour nous, qui est la question des droits et de l'inclusion au sein du bâtiment. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent ici pour nous, ce qui est important, c'est qu'elles aient le choix de faire ce qu'elles souhaitent, que ce soit se reposer ou aussi participer aux tâches de gestion collective. Pour nous, c'est aussi très important de laisser le temps à ces personnes de trouver du repos et de participer à cette gestion collective du lieu. Et on leur donne aussi accès à des espaces d'expression pour pouvoir leur proposer de critiquer, que ce soit positivement ou négativement, nos actions, pour faire en sorte d'améliorer l'accueil qu'on propose au sein du bâtiment. On a aussi des activités qui sont proposées à ces personnes-là.
Quel genre d'activité ?
Alors, c'est des activités qui sont artistiques, comme sportives ou de la cuisine. Et pour nous, c'est aussi quelque chose qui permet de renforcer le lien social. On a conscience que 3 jours, 3 nuits, c'est pas énormément, et qu'on va pas rencontrer les personnes, c'est pas l'objectif. Mais l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir proposer des espaces où, pour les personnes qui le souhaitent, elles pourront rencontrer un peu davantage ou juste participer à une activité sportive. Et pour nous, c'est aussi un outil de médiation par excellence, ces activités-là, parce qu'elles permettent aussi de dépasser les barrières de la lande et de faire en sorte que les personnes accueillies au sein de Refuge Solidaire se sentent le plus à l'aise possible durant leur séjour. Quelque chose de fondamental aussi pour nous, notre association, elle vit grâce à un formidable élan de solidarité bénévole. La majorité des personnes qui agissent au sein du bâtiment, elles sont bénévoles. On est plus de 800 bénévoles par an. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui viennent de l'extérieur de Briançon pour 2 semaines, 1 mois, voire pour certaines 2 à 6 mois, qu'on héberge et qui viennent prêter main forte. Pour pouvoir faire vivre cette solidarité.
Quelle forme prend ce bénévolat ?
Alors, ce bénévolat, il prend différentes formes. Il y a déjà des bénévoles locaux et des bénévoles locales qui sont pour la plupart spécialisés dans une tâche, que ce soit la cuisine, que ce soit le linge, que ce soit aussi les permanences d'accueil. On a aussi des bénévoles qui viennent de 2 à 1 mois et qui vont plutôt prendre part aux tâches qui permettent d'assurer la vie quotidienne du lieu, que ce soit le ménage, le tri des dons, la cuisine, la mise en place d'activités, etc. Et on a aussi des bénévoles qui sont là pour un temps un peu plus long, de 2 à 6 mois, et qui sont formés plus spécifiquement sur le maintien des permanences d'accueil qui ont lieu toute la journée au refuge, pour faire en sorte que les personnes accueillies puissent avoir accès à l'information et mieux savoir comment préparer leur départ de Briançon pour aller vers d'autres lieux.
Et justement, aussi... par rapport au temps passé, vous avez mentionné le fait qu'elle restait en moyenne 3 jours. En 3 jours, est-ce que vous avez le temps d'évaluer leur état de santé déjà ? Est-ce qu'elles ont le temps de se reposer avant de repartir ? Est-ce qu'elles ont le temps éventuellement de se confier à vous pour savoir, pour vous exprimer ce qu'elles veulent faire après, si elles veulent faire des démarches de demande d'asile ou continuer ailleurs ? Isabelle ?
Oui, moi je vais parler plus sur l'aspect santé. En tout cas, moi je trouve qu'en 3 jours, oui, on arrive. Alors on voit pas tout le monde, hein, c'est plus les personnes qui viennent à nous. Enfin, on fait aussi des actions d'aller vers dans le bâtiment pour marquer notre présence et dire qu'on est là pour une première écoute ou pour un accès aux soins. On voit à peu près peut-être 30 à 40% des personnes à refuge au niveau de la permanence médicale. Donc on arrive, moi je trouve. Alors après, les personnes arrivent dans des états de santé assez dégradés, notamment en ce moment avec des parcours migratoires qui sont très durs et très longs, notamment avec des passages en Libye, très très long, avec des enfermements et des violences multiples. Donc ils arrivent avec un état de santé vraiment, vraiment dégradé. Mais on arrive, je trouve, même en 3 jours parfois, à établir un certain lien de confiance. Et il faut bien se rendre compte que parfois, c'est une première fois dans un lieu où on les appelle simplement par leur prénom aussi, et où ils sont considérés en tant que humains depuis longtemps par rapport au parcours. Donc moi, je trouve que par moment, le lien de confiance peut se faire quand même assez rapidement, et parfois en un ou deux entretiens, en 3 jours. On peut faire 1 ou 2 entretiens au niveau de la santé. On a une vigilance au niveau de la santé des femmes, par exemple. Voilà, un ou deux entretiens avec des femmes, on arrive à créer ce lien de confiance, je trouve, qui peut... parfois, c'est plus compliqué. Parfois, il y a des parcours qui sont plus durs. On ne va pas aller non plus gratter trop le parcours et les souffrances, parce que justement, c'est là. Les personnes sont là pour 3 jours, elles sont aussi contentes d'être arrivées en France et elles ont plein d'énergie pour continuer la route et aller dans leur ville de destination. Donc l'idée, c'est de ne pas aller trop creuser et trop gratter des souffrances, parce qu'elles ont aussi leur résistance et c'est important qu'elles les gardent. Donc on est très, très vigilants à ce cadre-là. Mais je trouve voilà, qu'on arrive en tout cas à proposer un premier accès aux soins, à faire des orientations qui sont pertinentes et qui répondent vraiment aux besoins des gens.
Oui, Brune, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je trouvais que ça couplait bien aussi avec une question que vous avez posée tout à l'heure, plutôt sur par rapport au fait qu'au début c'était très un élan spontané de 2 personnes, etc., qui s'étaient mobilisées sur la question. Et en fait, c'est aussi sur ces questions assez sensibles, assez spécifiques, que ce soit la santé mentale, l'accueil digne ou alors la documentation juridique, qu'on se rend compte que parfois aussi on a besoin, qu'on soit en personne bénévole ou salarié, on a besoin aussi de formation, on a besoin aussi de partage aussi de connaissances, de savoir, parce que là on joue avec des enjeux très très compliqués. Isabelle soulignait à juste titre l'importance de pas aller trop creuser. Nous par exemple dans la documentation juridique, on ne pose pas de questions sur pourquoi les personnes sont parties de chez elles, par où est-ce qu'elles sont passées et où est-ce qu'elles iront ensuite. En fait aussi pour des questions d'éthique et de posture, c'est leur histoire et peut-être que c'est peut-être la dernière chose qui leur appartient réellement. Et nous aussi c'est notre devoir de ne pas aller renforcer des postures qu'on sait déjà très déséquilibré pour des raisons aussi de... des fois il y a aussi du racisme qui est un peu intégré, on ne se rend pas forcément compte que dans nos postures on a un comportement qu'on aurait avec telle personne qu'on n'aurait pas avec une autre personne. On essaye aussi de ne pas les déposséder d'histoires qui sont parfois difficiles, même nous aussi à accueillir, c'est aussi respecter nos limites et donc c'est pour ça qu'on accorde une importance toute particulière, mais que ce soit Refuge Solitaire, Médecins du Monde ou Toutes et Tous Migrants, sur la formation des bénévoles et aussi sur des temps d'analyse de pratique, des temps aussi d'échange entre nous sur est-ce qu'on fait bien les choses, même si on ne sera jamais parfait et parfaite, parce qu'il peut y avoir des conséquences dommageables sur les personnes qu'on rencontre et on essaye de les limiter, ces conséquences-là, et de faire les choses à peu près correctement. Voilà.
Donc il faut les accueillir sans être intrusif, en fait, et sans les bloquer. Alors une question également pour tous les trois, à partir de tout ce que vous faites dans l'accueil de ces migrants, vous interagissez avec toute la société que vous avez autour de vous, les habitants du Briançonnais, mais également l'administration, les autorités. Et de manière générale, comment sont accueillies et perçues vos actions dans le Briançonnais, par la population déjà ? Quels sont les retours que vous avez par rapport à ça ?
Je pense qu'il n'y a pas une population apparemment de nos expériences. Il y a l'air d'y avoir quand même plusieurs tendances. Le territoire reste traumatisé aussi par les interventions il y a quelques années de génération identitaire. Enfin, il ne faut pas se mentir, hein. Nous on souhaite que le territoire soit accueillant, on met en avant une histoire de solidarité, de territoire vraiment engagé, mais il y a aussi une réalité qui s'appelle la montée de l'extrême droite ou des droites plurielles, le rejet des personnes exilées, le rôle aussi et la responsabilité des médias, notamment de certains médias là-dedans, et donc nous les échos qu'on a de la population, ils sont dans ce sens assez variés. J'ai l'impression qu'on a quand même de plus en plus un chouette accueil. Le territoire des Hautes-Alpes, par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était un des seuls départements dans le coin qui a vraiment eu une montée des votes à gauche. Et ça, on ne pourra jamais le savoir, mais peut-être aussi que c'est grâce aux diverses associations, hein, pas que les nôtres, qui portons des messages, qui organisons des événements, qui essayons aussi de faire autant que possible que les gens se réunissent avec leurs profils divers et variés. Et c'est très bien aussi qu'il y ait cette diversité-là. Mais je voulais quand même aussi souligner le rôle que joue l'Italie, hein, on l'oublie beaucoup, hein, mais que ce soit les camarades qui sont à Vintimille, à Oulx, tous et toutes jouent un rôle formidable aussi là-dedans, et on ne pourrait rien faire sans eux et elles. J'ose même pas imaginer l'état de fatigue, l'état de santé et les conditions dans lesquelles arriveraient les personnes si le refuge de Oulx n'existait pas, si la mobilisation à Vintimille n'existait pas avant l'arrivée à Menton, enfin... la solidarité transfrontalière doit continuer d'exister et on ne doit pas céder aux tentatives de criminalisation aussi là-dessus et leur reconnaître aussi qu'eux participent beaucoup à ce que la population pense de nous.
Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, mais je trouve que c'est un peu difficile en effet de connaître la tendance actuelle. Peut-être que les municipales arrivent aussi, donc
voilà,
peut-être que ça nous permettra de savoir un peu plus.
Dans les différents feuillets que l'on peut recevoir des différents candidats, on a cette question. de la migration qui revient.
Oui, donc, bah, peut-être ça nous donnera aussi une tendance un peu plus précise en fonction des résultats de l'élection municipale, mais c'est vrai que là c'est un petit peu dur, on entend parfois que les gens sont un peu las aussi de, voilà, d'entendre la frontière, d'entendre nos revendications, en même temps on n'a jamais eu autant de, enfin, refuge tous migrants, autant de dons aussi de citoyens, donc forcément ça montre un soutien et c'est hyper, hyper encourageant aussi d'avoir ça. On a eu, nous personnellement, Médecins du Monde, on a eu une attaque sur notre véhicule par exemple, où le mot Médecins du Monde a été barré avec de la peinture, donc il y a des passages, des signalisations de chemins qui sont faits pour faciliter l'arrivée juste à Briançon, parce qu'il y a des endroits très dangereux, notamment autour du pont d'Asfeld où des gens sont morts à cet endroit-là, et ces signalétiques-là pour appuyer les personnes sont enlevées par d'autres personnes. Donc il y a des petits signaux où on voit qu'il y a des contres, bien évidemment, et qui ne sont pas OK avec nos actions. Mais voilà, difficile d'avoir une vraie vision claire de cette mobilisation, quoi.
D'accord, Émile, un mot par rapport à ça.
Je voulais rebondir là-dessus parce que peut-être qu'on s'est trop étendu, et du coup sur la question des dons, j'ai pas pu parler de cette question avec refuge. Mais pour moi, je peux faire le pont avec le ressenti de la population, parce que Isabelle l'a rapidement évoqué. Il faut savoir que refuge, au printemps dernier, s'est retrouvé dans une crise financière très importante, qui a mis en péril ses actions, tout simplement parce que de manière indirecte, même si l'association ne touche pas de financement public, une bonne partie des fondations privées qui financent notre structure bénéficiaient de subventions publiques, et à la suite du budget 2025 à l'échelle nationale, comme il y a eu une énorme restriction à l'égard des actions sociales, ces fondations privées dont on dépendait avaient moins d'argent, et donc on en a moins reçu par ricochet. Et donc pour nous, c'est difficile de pouvoir identifier clairement le ressenti de manière scientifique des personnes. Par contre, ce qu'on peut évaluer, c'est l'élan de solidarité dont on a pu bénéficier, où au printemps dernier, alors que la structure était à deux doigts de la fermeture, potentiellement, les réseaux de solidarité se sont activés, nos partenaires se sont activés, énormément de personnes ont parlé de l'association, beaucoup de personnes se sont rendues sur place pour prêter main forte, beaucoup de personnes ont mensualisé leurs dons, beaucoup de personnes ont donné pour l'association, et cet élan-là, pour le coup, c'est un élan local, mais c'est aussi un élan national. Il y a des personnes qui nous ont donné de partout, et c'est quand même un signe que le travail qu'on fait à l'échelle du territoire parle à beaucoup de personnes, et que beaucoup de personnes sont prêtes aussi à défendre des structures en péril, mais qui défendent la solidarité face à l'intensification de toutes ces politiques réactionnaires et l'extrême droitisation des sphères de pouvoir et de la société.
Et quels sont vos rapports avec l'administration, avec les autorités? Parce que la population peut avoir un certain ressenti qui est très varié, hein, comme vous le disiez. En revanche, vos relations avec les pouvoirs publics, quelles sont-elles? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous êtes en opposition? Comment est-ce que vous êtes ressenti?
Alors, vis-à-vis des pouvoirs publics, peut-être parler à l'échelle du territoire. Nous, on interagit avec la préfecture, notamment du 05, notamment pour leur faire valoir le fait, l'importance que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en matière d'hébergement d'urgence. C'est un travail qui existe depuis longtemps. Malheureusement, les réponses de la part de la préfecture ne sont pas positives, alors que pourtant, à certains moments, les pouvoirs publics ont agi et ont mis en place des structures d'hébergement temporaires. Par exemple, en juillet 2024, il y a eu un grave incendie au sein des terrasses solidaires, et les pouvoirs publics ont été contraints d'héberger toutes les personnes qu'on accueillait à cette période-là, parce qu'en fait, elles se seraient retrouvées à la rue. Et pour nous, ce moment-là prouve que les pouvoirs publics peuvent agir, et tout notre travail aussi repose sur les rencontres qu'on a pour leur faire comprendre que c'est leur responsabilité, et leur faire comprendre que nos associations se trouveront toujours là où la dignité n'est pas.
D'accord. Et sur le terrain, parce que donc que ce soit Médecins du Monde ou Tous Migrants, lorsque vous faites des maraudes ou des observations de ce qui se passe à la frontière, comment est-ce que votre présence et vos actions sont ressenties?
Justement, je te laisserai la parole, Brune, après, juste pour dire qu'on fait partie de ces réunions interassociatives quand on va rencontrer le préfet. Là, je parlerai du préfet précédent, en tout cas, qui avait écrit un courrier sur cette action de maraude et d'unité mobile de mise à l'abri et qui disait que notre action était pleinement nécessaire et qu'il n'irait jamais contre notre liberté associative. Donc, on avait une validation, en tout cas, du préfet là-dessus, mais pour le coup, qui est complètement en opposition avec ce qui se passe concrètement sur le terrain et en maraude. Et pour donner des exemples sur l'UMA et voilà, sur notre action Médecins du Monde, tous migrants et avec le collectif Réduction des risques en montagne, c'est très fluctuant, en tout cas sur les actions de maraude, on a pu être entravé dans notre action plusieurs fois, à plusieurs reprises, que ce soit par le véhicule Médecins du Monde qui est suivi toute la soirée par une patrouille de police, donc impossibilité de pouvoir porter assistance à des personnes puisque les personnes après sont systématiquement interpellées et refoulées en Italie en toute violation de droit, donc impossibilité de mener notre action humanitaire. On peut être interpellé et avoir des propos complètement déplacés par rapport à notre action. On a pu avoir des amendes mensongères parfois, et parfois on se fait arrêter aussi par des policiers ou des gendarmes avec des personnes exilées dans la voiture qui ont besoin de soi ou besoin d'une mise à l'abri, et ça demande des négociations de plusieurs heures. Parfois ça passe, ok, on nous laisse partir et c'est ok, on peut mener notre action. Et parfois, ça mène à des discussions longues avant de pouvoir appeler les pompiers si vraiment il y a un besoin de soins. Donc il peut y avoir, c'est très fluctuant, je ne vais pas dire que c'est tous les jours, tous les soirs, c'est très fluctuant en fonction des présences, la présence des forces de l'ordre, mais ça reste des entraves, on tend toujours le dos en tout cas sur les entraves à nos actions sur le terrain.
Brune, vous voulez rajouter quelque chose ?
Sur le rapport à la police, hein, c'est une question qui revient très souvent. En fait, là, nous, on est victime d'une criminalisation sur place et nationale. Sur place, parce qu'en fait, on se voit contrôler notre identité tout le temps dans des cadres légaux absolument pas conforme aux règles notamment du code de procédure pénale ou d'autres règles que doivent respecter la police. On se fait tout le temps contrôler notre identité au point où parfois certains utilisent le terme de harcèlement, en tout cas en tant que solidaire. Moi, je me suis fait contrôler mon identité un nombre de fois incalculable. Et donc, en fait, c'est aussi ça qu'on dénonce. En fait, pour que les personnes comprennent, la militarisation de la frontière n'a pas un impact que sur les personnes exilées. C'est aussi une présence policière accrue qui n'est en vérité pas justifiée. Là, en fait, les autorités mènent une guerre qu'elles s'inventent, hein. Et donc, nous, c'est vrai que tous migrants, on avait pris un peu le parti d'aller dans une action un peu plus provoque avec ce petit livret au nom de la loi qu'on distribue aux policiers pour leur rappeler qu'en fait, il y a une loi, enfin, il y a des droits, pardon, fondamentaux, leur en déplaise, et qu'ils ont la possibilité, si ce n'est le devoir, de désobéir à des ordres illégaux ou illégitimes qui portent atteinte aux droits fondamentaux en replaçant systématiquement les droits fondamentaux de toutes et tous au-dessus de la pyramide. Et donc ensuite s'inscrivent des lois qui parfois en fait sont complètement attentatoires aux droits fondamentaux. Et donc ce rapport à la police, il est parfois particulier. Je mentirais si je disais qu'on arrivait à rencontrer le commandant de la PAF actuel, la police aux frontières de Montgenèvre, qui a, en tout cas pour tous ces migrants, refusé de nous rencontrer. Enfin, c'est quand même assez hostile comme comportement. Les libertés associatives à l'échelle de Briançon sont quand même malmenées. On a difficilement accès à des salles de location. Enfin, en fait, voilà, c'est tout ce champ-là qui vise à nous décrédibiliser, à nous marginaliser, à nous appauvrir aussi. C'est des amendes à contester sur le littoral nord. C'est tout à fait accablant ce qu'ils vivent. Voilà. Et donc, pour finir là-dessus aussi, rappeler que nous, notre rôle, c'est aussi de contrer cette criminalisation qui est faite des personnes exilées et des personnes solidaires, et de rappeler que là, aujourd'hui, l'acteur qui ne respecte pas les droits fondamentaux, c'est l'État. Et c'est pas nous. Et donc, nous, on se retrouve contraints à aller respecter énormément de règles, mais en vérité, ce qu'on observe au quotidien, c'est que c'est l'État qui respecte pas les droits, et alors que nous, nos actions sont complètement légales et légitimes.
Eh bien, merci. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale avant de conclure cette émission.
جاء عبر انقلاب عسكري وضعته العمامة
كيف واحد بن جعلي كبير كبير ده شرف ولا خصاب ده
وعدنا الفساد هذه ستكون حقيقة ربنا وصفه بحياة
27 سنة نص في دم الناس
سودان بدون كازا نبزونا قالوا فيران دمرونا ده اليمن شتتونا وين ما كان قناف صفا تحت رصاص حي عصيان اخوانك يا بلي عشانك يا إنسان نبني من جديد ما بتحلم بالسودان فيه قروش فيه أمان فيه حرية فيه كيان فيه حقوقك أساسية في الأفكار في الشخصية في السماء في العقلية
في وينك لا في قبلية الحسادة والسطحية عواليك نخليها سودان بدون كيزان غفلونا جوعونا شردونا دليامان أكلونا بس بومبا سودان في ونماء في وعطاء في ولاء ما في وغلاء.
Eh bien, nous terminons notre émission Parlons des droits humains consacrée ce soir à l'accueil des migrants qui arrivent à la frontière dans le Briançonnais et aux associations qui leur viennent en aide avec Brune Béal de Tous Migrants, Émile Rabreau des Refuges Solidaires et Isabelle Laure de Médecins du Monde. Donc pour conclure cette émission, quelques messages vous souhaiteriez faire passer aux auditeurs? Quelles informations vous pourriez nous donner par rapport aux événements à venir ou quels appels vous souhaiteriez faire passer? Émile?
Alors en termes d'appel, peut-être que des personnes nous découvrent pour la première fois. Nous évidemment qu'on appelle aux gens de nous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit de venir faire du bénévolat, que ce soit parler de nos actions à l'échelle du Briançonnais, à des proches ou compagnie. On a vraiment besoin de faire corps, de serrer les coudes pour faire vivre la solidarité à l'échelle du territoire. Ça passe par plusieurs manières de nous soutenir et il ne faut pas hésiter à se lancer là-dedans. Il n'y a pas de petit soutien. 1 euro de mensualisation, un don de 12 euros. Le fait de ramener des denrées alimentaires ou de parler de nous à vos proches, ça peut servir et c'est d'autant plus important en ce moment, par les temps qui courent, de soutenir nos actions.
Merci bien. Brune.
Bien, moi j'aimerais juste rappeler qu'on a toutes les raisons en ce moment de s'émouvoir de ce qui se passe à l'international. Je pense notamment aux personnes qui subissent les politiques migratoires aux États-Unis, ailleurs, en Méditerranée ou dans beaucoup d'autres endroits, malheureusement. Mais si vous souffrez de ce fameux phénomène d'impuissance, sachez que la première action, c'est aussi de se mobiliser là où nous sommes, à petite ou grande échelle. Ça peut être aussi soutenir nos associations financièrement ou avec du temps. Tous migrants aussi, nous sommes complètement indépendants de toute subvention publique. Et donc voilà, chaque petit geste compte, parler autour de vous ça compte, et surtout voilà, on n'est pas obligé, c'est pas une fatalité de se sentir impuissant, on peut aussi rejoindre cette grande danse, et je vais peut-être laisser Isabelle parler d'une très belle danse.
Merci donc Isabelle.
Oui, juste moi, peut-être un petit message juste avant aussi, plutôt envie de dire, d'avoir une réflexion sur le fait de déshomogénéiser un peu les parcours migratoires et qu'il y a beaucoup de motifs au départ des personnes depuis leur pays et que c'est important d'avoir la curiosité de comprendre qu'il y a une diversité de parcours. Enfin, on a tendance à mettre des gens vite dans des catégories et dans des mots valises et je trouve ça essentiel de pouvoir interroger un peu cette diversité. Et pour faire quoi ce que dit Brune, oui, on vous invite du coup sur le dernier week-end de juin, j'ai pas vraiment le dernier week-end de juin, au festival La Bouffée d'air, c'est la deuxième édition. C'est vraiment un festival qui est porté par ce qu'on appelle la plateforme briançonnaise, donc c'est vraiment l'organe d'animation interassociatif, intercollectif, interorganisation de Briançon, et qui est vraiment un festival pour promouvoir un territoire accueillant. L'idée, c'est vraiment qu'il y a des conférences, il y a de la sensibilisation, c'est festif, il y a des concerts, et l'idée, c'est aussi de prôner aussi la joie militante, voilà, de pouvoir avoir des moments où on se revoit tous ensemble aussi. C'est un moment festif pour parler de sujets qui sont graves. Nos gros mots d'ordre, c'est solidarité, antiracisme et interculturalité. Et ça se veut un festival très ouvert. Donc vous êtes bienvenus pour nous rejoindre le 26, 27 et 28 juin à Villars-Saint-Pancras, à l'espace montagne proche de Briançon.
Eh bien, le message est passé. Merci infiniment à tous les trois pour vos témoignages. Merci, au revoir et peut-être à bientôt. Donc, pour chacun d'entre vous, vous pouvez réécouter cette émission que vous pouvez télécharger sur Agora Côte d'Azur ou en écoutant les podcasts que vous trouverez sur le site. Bonne soirée à tous et à bientôt.